Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc nous sommes heureux d'accueillir les gens qui sont là, les derniers qui arrivent et qui prennent place dans notre amphithéâtre. On est heureux de vous accueillir dans notre institut. On est heureux d'accueillir également les gens qui nous suivent en vidéo sur Internet. Donc pour cette conférence mensuelle, la dernière de cette année donc à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous traversons une période un petit peu particulière puisque nous avons appris récemment la disparition brutale de notre collègue et ami Serge Couchemi. Serge Couchemi était directeur de recherche émérite au CNRS. C'était une figure historique de cette maison. C'était un spécialiste du Soleil. Il a étudié essentiellement le Soleil durant toute sa carrière. Il a observé de nombreuses éclipses de Soleil pendant des missions, pendant même des expéditions, on va dire, qu'il a menées pendant plus d'une cinquantaine d'années. Donc, Serge Couchemi, c'était aussi une personnalité très forte, hein, une personnalité très chaleureuse. Donc, on est beaucoup à penser à lui, à l'IAP, au-delà de l'IAP. Donc, je propose qu'on ait une pensée pour lui au début de cette conférence et puis qu'on dédie cette conférence à sa mémoire. Alors, elle s'y prête bien, cette conférence, puisque la conférence donc, qui va nous être présentée par Pierre Carvela aujourd'hui, elle a pour titre, je ne me souviens plus le titre de ta conférence, « Les étoiles à haute résolution angulaire ». Et donc, les étoiles, le Soleil, c'est une étoile qu'on étudie très bien, mais donc on va le voir dans ta conférence que les étoiles, on commence à bien les étudier, parfois presque aussi bien que le Soleil. Donc, Pierre Carvela, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Pierre, tu es astronome à l'Observatoire de Paris, au laboratoire Lesia. Tu as fait tes études à Paris, puis tu as également étudié au Chili pour faire ta thèse. Tu as passé beaucoup d'années au Chili, on faisait le compte tout à l'heure. Tu as dû passer au moins 6 années au Chili et peut-être plus à l'avenir. Tu es spécialiste notamment de physique stellaire. Et donc, physique stellaire, la physique stellaire, c'est un petit peu la base de l'astrophysique. Il y a tout un tas d'applications par la suite. On s'intéresse aux étoiles et puis il y a d'autres choses aussi dont tu vas sans doute nous parler ce soir. Tu étudies les étoiles, notamment par le biais de l'interférométrie, l'optique adaptative, l'astrométrie. Et donc, tu nous présentes ça ce soir pour cette conférence. Je t'en prie.
Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, merci aussi de cette invitation. Je vais vous présenter effectivement ce soir quelques éléments sur les dernières découvertes qu'on a réalisées sur les étoiles en utilisant des techniques de haute résolution angulaire, notamment de l'optique adaptative et de l'interférométrie optique. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est une étoile pour les personnes qui ne seraient pas vraiment familières avec ce type d'objet. Quelles sont les étapes principales de l'évolution d'une étoile? Vous verrez, c'est un objet qui est simple, une étoile. C'est un objet qui, dans les détails, est complexe, mais d'une manière globale, est un objet assez simple à comprendre. Et puis, je reviendrai aux techniques d'observation que nous allons utiliser, donc la haute résolution angulaire, l'interférométrie et l'optique adaptative, et ce que ces observations nous apprennent sur les étoiles que nous observons grâce à ces merveilleux instruments. Et donc leur surface et leur environnement proche, qui sont des lieux tout à fait clés pour la physique des étoiles et leur interaction avec leur environnement. Et donc je présenterai enfin quelques résultats récents qui sont donc des exemples un peu contemporains, actuels de ce que nous faisons avec la haute résolution angulaire, donc la mesure de diamètre d'étoiles, les étoiles pulsantes et notamment les étoiles céphéides qui sont un sujet qui m'est particulièrement cher, les étoiles en rotation rapide et qu'est-ce que donne une étoile qui tourne très vite sur elle-même, on verra que c'est assez spectaculaire. L'étoile Bételgeuse, qui est une étoile que tout le monde connaît, mais qui est une étoile fascinante, une immense supergéante rouge. Et nous verrons que les techniques de haute résolution angulaire nous permettent de résoudre la surface de cette étoile d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et puis, je terminerai avec un objet un peu particulier, un peu spécial, un micro-quasar appelé SS-433. Donc, c'est un objet c'est un objet binaire qui est constitué d'un trou noir et d'une étoile supergéante. Et nous verrons que les observations en interférométrie donnent des informations tout à fait intéressantes sur ce type d'objet. Alors, venons-en maintenant à qu'est-ce qu'est une étoile. Alors, une étoile, c'est une boule de gaz chaud. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir physiquement. C'est une boule de gaz, de plasma, mais on va dire de gaz, très chaud et qui brille parce qu'il est chaud. C'est la raison de l'émission de lumière, c'est simplement que les particules sont chaudes et donc l'étoile émet de la lumière thermique. Voilà, donc cette étoile, cette boule de gaz, eh bien, elle est tenue par la gravité, hein, donc le poids de la matière elle-même qui retient le gaz sur lui-même et qui compense la pression du gaz qui a tendance au contraire à dilater l'étoile et à la faire se disperser. Donc une étoile, c'est un équilibre parfait et plus ou moins stable selon les étoiles entre la gravité et la pression. Ce qui produit la chaleur de l'étoile, c'est de la fusion nucléaire. C'est la fusion nucléaire au centre de l'étoile qui transforme donc des éléments légers en éléments plus lourds qui crée de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui maintient l'étoile sous pression et qui compense la gravité. Donc le fait que la production d'énergie soit au centre, ça implique qu'il y a tout un processus de transport de cette énergie depuis le centre vers l'extérieur de l'étoile. Hein, ce transport de chaleur qui va évacuer donc, l'énergie produite par les réactions de fusion, l'amener à la surface et ensuite rayonner cette énergie, hein, rayonner dans l'énergie ensuite vers l'extérieur. Il faut voir que l'énergie que rayonne par exemple le Soleil, c'est exactement l'énergie qui est produite en continu au cœur du Soleil. Donc c'est vraiment un équilibre qui est très élégant. Donc voilà, une étoile c'est ça, une boule de gaz chaud qui est maintenue chaude grâce à la fusion nucléaire. Il y a un transport d'énergie vers la surface et cette énergie ensuite est émise dans l'espace sous forme de rayonnement. Alors, une surface qui va nous intéresser beaucoup dans le reste de l'exposé, c'est la surface de l'étoile, la photosphère. La photosphère d'une étoile, c'est la surface à partir de laquelle la lumière s'échappe en ligne droite. En dessous de cette surface, la lumière, elle est diffusée par toutes les particules constituant l'étoile. Et au-delà de cette surface, la matière est suffisamment transparente pour que la lumière s'échappe directement. Alors, une étoile se forme à partir d'un nuage moléculaire. C'est un grand nuage de gaz relativement froid qui s'effondre sur lui-même sous l'effet de son propre poids, de sa propre gravitation. Donc l'étoile se forme de cette manière-là. Le gaz s'effondre. C'est une étape qui est quand même assez complexe, qu'on ne maîtrise pas encore totalement. On a de bonnes idées, mais on ne maîtrise pas encore toutes les étapes de la formation stellaire. C'est un processus assez complexe. Et puis, quand l'étoile s'est formée, que les réactions nucléaires ont démarré pour chauffer l'étoile, eh bien, l'étoile est sur ce qu'on appelle la séquence principale. C'est une étoile dite naine. Et cet état d'étoile naine, eh bien, il va durer la plus grande partie de la vie de l'étoile, de l'existence de l'étoile. Et vers la fin de sa vie, elle va se transformer, elle va grandir pour différentes raisons, et notamment parce que la nature des réactions nucléaires qui chauffent l'étoile, au cœur de l'étoile, va changer progressivement, et ça va conduire à un changement de structure de l'étoile et à un gonflement. Le gonflement est un symptôme de vieillissement de l'étoile, peut-être des êtres humains aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins des étoiles. Et on va avoir affaire à une étoile géante qui va également être un peu plus froide, donc une étoile géante rouge en général. Et lorsque l'étoile géante a terminé de réaliser la fusion nucléaire au centre de l'étoile, elle a épuisé son carburant, et bien à ce moment-là, elle restitue sa matière au milieu interstellaire. Il y a différentes manières pour les étoiles de restituer cette matière. Il y a des manières assez calmes, comme pour le Soleil par exemple, où l'étoile va simplement se dissoudre dans l'espace de manière relativement fluide. Et puis pour les étoiles les plus massives, il y a des explosions, des supernovées, qui elles sont beaucoup plus violentes et très, très impressionnantes à observer. Tout ce processus de formation, de la formation de l'étoile jusqu'à la restitution de la matière au milieu interstellaire, ça prend entre quelques millions et 300 milliards d'années selon la masse de l'étoile. Et encore 300 milliards, je pense qu'il y en a qui peuvent durer encore plus longtemps. C'est essentiellement proportionnel à la masse de l'étoile. Quand une étoile naît très massive, eh bien, elle vit très peu de temps. Sa vie est très brève. Et quand elle est très peu massive, inversement, elle va durer très très longtemps. Donc une étoile naine rouge, une toute petite étoile, elle peut durer des centaines de milliards d'années. Tranquillement sur la séquence principale, tandis qu'une étoile beaucoup plus massive, elle va durer très peu de temps et exploser en supernova à la fin, comme Bethelgeuse par exemple. Alors, les étoiles, pourquoi ce sont des objets si passionnants et si importants ? Eh bien, les étoiles, c'est le moteur de l'évolution chimique de l'univers. C'est c'est grâce aux étoiles que l'univers évolue réellement dans sa composition, dans, sa, dans la nature des atomes de l'univers. Et ce sont les étoiles qui réalisent cette évolution et cette transformation. Et d'une certaine façon, elles définissent un peu la flèche du temps, c'est-à-dire il y a un aspect irréversible dans la transformation qui est réalisée par les étoiles sur les éléments chimiques légers, donc hydrogène, vers des éléments plus lourds. Et donc, voilà, il y a une forme d'irréversibilité de cette transformation. Alors, les étoiles, c'est la composante principale des galaxies, hein, c'est celle qu'on voit. Hein, donc, il y a des milliards et des milliards de galaxies, et donc chacune contenant des milliards d'étoiles. Donc, le nombre d'étoiles est évidemment extrêmement grand. Et les étoiles, eh bien, elles émettent la plupart, presque toutes, en fait, la lumière de l'univers. Donc, ce sont des objets aussi très importants d'un point de vue cosmologique, évidemment. Elles hébergent les planètes, et bon, heureusement pour nous, elles chauffent ces planètes, elles permettent donc l'apparition de la vie sur Terre. Sans le Soleil, évidemment, la vie n'aurait pas pu apparaître sur Terre. La vie existe grâce au Soleil et elle s'éteindra également du fait, alors pas grâce, elle s'éteindra du fait de l'évolution du Soleil dans à peu près un milliard d'années, hein, du fait de l'évolution du Soleil vers le stade de géante rouge qui va le faire devenir plus brillant et donc rendre la température sur Terre trop élevée pour la vie. Voilà, donc les étoiles sont des objets extrêmement fascinants. En plus, d'un point de vue personnel, ce qui me passionne dans les étoiles, c'est leur extraordinaire diversité. Il y a une quantité de phénomènes physiques et de propriétés physiques absolument extraordinaires. Des étoiles des toutes petites jusqu'à des très grandes, des étoiles en interaction de différentes masses, des supernovae. Vraiment un domaine tout à fait fantastique de l'astrophysique. Alors, ce qui va nous intéresser pour la haute résolution angulaire maintenant, c'est est-ce qu'on peut voir quelque chose sur les étoiles ? Parce que c'est quand même un sujet pas évident pendant très longtemps, hein, jusqu'au XXe siècle. On ne voyait que la surface du Soleil, et puis c'était la seule étoile pour laquelle on pouvait distinguer quelque chose à la surface de l'étoile. Alors, le problème, c'est la distance. Les distances en astronomie sont très grandes, hein, elles sont astronomiques, hein, comme leur nom l'indique. Les étoiles, elles ont des tailles qui peuvent être assez variables. Les plus petites font à peu près 15% de la taille du Soleil et les plus grandes de l'ordre de 2000 fois la taille du Soleil. Donc c'est déjà une assez large gamme de tailles. Le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre. Et cette taille qui paraît grande, hein, 1 400 000 km, c'est quand même assez important, eh bien, il faut la rapporter à la distance entre les étoiles. Et cette distance, elle est très grande, puisqu'en moyenne, au voisinage du Soleil, il y a 10 parsecs, à peu près une dizaine d'années-lumière, quelques parsecs, une dizaine d'années-lumière entre ces étoiles, c'est-à-dire 100 000 milliards de kilomètres. Donc on peut faire un rapide calcul de taille angulaire, hein, on divise simplement la taille du Soleil par la distance moyenne entre les étoiles, et on se rend compte que cette taille angulaire typique d'une étoile proche de type solaire, c'est 3 millisecondes d'angle. Donc 3 millisecondes d'angle, c'est vraiment très petit angulairement, ça correspond à la taille apparente d'une pièce de 1 euro, donc qui fait 23 mm, vu à une distance de 1600 km. Donc, résoudre la surface d'une étoile, même une étoile proche, c'est difficile. C'est difficile parce qu'elles sont très petites angulairement. Voilà. Et 3 millisecondes d'angle, c'est beaucoup plus petit que ce que peut résoudre un télescope depuis le sol de taille même grande, hein, même de 10 mètres de diamètre. Alors, un petit aperçu également de qu'est-ce que ça représente une milliseconde d'angle. Alors, on va partir de la taille de la Lune, c'est à peu près 1900 secondes d'angle, donc la Lune, vous voyez, c'est assez grand. On peut quand même la cacher avec le petit doigt au bout du bras, hein, donc ce n'est pas si grand que ça. Si vous pointez la Lune avec votre petit doigt, vous arriverez sans problème à la cacher avec votre petit doigt, donc ce n'est pas si grand que ça. Et maintenant, on va essayer de zoomer sur la Lune et de se rendre compte de quelle taille ça fait, quelques millisecondes d'angle, à la surface de la Lune. Donc, on a pris le cratère Tycho, hein, qui est un grand cratère facile à trouver. Et puis, on se rapproche progressivement. Donc, Tycho, il fait 45 secondes d'angle de diamètre. On focalise maintenant sur le pic central de Tycho. Donc, le pic central, il fait à peu près 2 secondes d'angle, hein, de taille. Donc, ça, c'est assez petit. On va zoomer encore un petit peu. Et agrandir encore plus, vous voyez, la partie centrale, là, elle fait à peu près 1 seconde d'angle. Et on voit qu'il y a un rocher qui est tout à fait curieux qui est posé au sommet de ce pic central et on va agrandir ce rocher. Vous voyez, il y a un gros rocher. Ce gros rocher, il fait à peu près 120 mètres de diamètre. 120 mètres à la distance de la Lune, vous voyez, ça fait un peu moins de 100 millisecondes d'angle. En fait, une milliseconde d'angle, c'est 2 mètres à la surface de la Lune, à 380 000 km de diamètre, de distance. Donc, si on regarde juste ce rocher-là, vu depuis un autre angle, vous voyez que 10 millisecondes d'angle, c'est 20 mètres, quoi. C'est une petite fraction de ce gros rocher à la surface lunaire. Donc, c'est petit. Et si on regarde maintenant les étoiles comparées à cette taille angulaire, ben Bételgeuse, elle fait cette taille-là comparée au rocher de la Lune, au rocher lunaire. Donc, ce n'est pas gros. Bételgeuse, elle fait une cinquantaine de millisecondes d'angle de diamètre. C'est une des plus grandes. Je crois que c'est la deuxième plus grande du ciel angulairement. Et Alpha du Centaure A, c'est la plus proche de nous. Elle fait un peu moins de 10 millisecondes d'angle de diamètre. Voilà, donc c'est tout petit. C'est tout petit. Et pour ça, il faut... Pour résoudre des tailles aussi petites angulairement, il faut des instruments qui sont très particuliers et très performants. L'optique adaptative, l'interférométrie. Alors, je commence par l'optique adaptative. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Hein. C'est une technique qui maintenant est bien maîtrisée. Elle vient du fait que depuis le sol, donc sous l'atmosphère terrestre, eh bien, on est limité par la turbulence. C'est-à-dire que la turbulence de l'atmosphère, l'inhomogénéité thermique de l'atmosphère, plus le vent, plus les perturbations diverses, font que les télescopes au sol sont limités à une résolution angulaire d'à peu près une seconde d'angle si on ne rajoute pas un système de correction. Voilà, une seconde d'angle, c'est à peu près le pouvoir de résolution d'un télescope de vingtaine de centimètres hein, de diamètre, donc c'est pas beaucoup. Si on fait un télescope de 10 mètres, ben, il ne verra pas plus finement qu'un télescope de 20 centimètres, sauf à corriger la turbulence atmosphérique. Et c'est le rôle de l'optique adaptative de réaliser cette correction-là. Donc, on voit le schéma qui est ici à droite. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais le principe, c'est qu'on applique sur un miroir déformable une correction en négatif de la perturbation qui est imposée par l'atmosphère sur le rayonnement en provenance des objets célestes. On réalise cette correction en temps réel, à haute fréquence, et ça permet donc de récupérer le pouvoir de résolution théorique du télescope, même d'un grand télescope de 10 mètres et à l'avenir de 39 mètres avec l'ELT européen. Voilà, donc ça c'est très, très utile. Simplement, l'optique adaptative, même avec un télescope de 40 mètres, la résolution angulaire n'est pas de 1 milliseconde d'angle. Ça reste encore insuffisant pour résoudre vraiment les détails des étoiles, on va dire normales, pas Bételgeuse, mais les étoiles plus petites. Alors, tout de même, quelques exemples de résultats d'optique adaptative tout à fait spectaculaires. Ici, en haut, on voit les premiers essais du système VLT-NACO, donc c'était déjà il y a une vingtaine d'années, sur la Lune. Donc, c'est, je crois, une des seules fois où un système d'optique adaptative a observé la surface lunaire. Ça fonctionne très bien. On voit des petits cratères vraiment de très petite taille. La résolution est très bonne. Lorsqu'on l'applique à une étoile binaire, comme ici en bas, on voit qu'on passe d'une tache image toute floue à vraiment deux images d'étoiles bien séparées. C'est le même objet, simplement la correction est activée pour l'image de droite. Et puis sur la planète Neptune, bon, l'effet est tout à fait spectaculaire. On a une boule floue hein, et puis on active l'optique adaptative et on a une image tout à fait nette et remarquable prise par l'instrument MUSE du VLT. Voilà, donc comme je le disais, on atteint des résolutions angulaires de l'ordre de 15 millisecondes d'angle pour les télescopes actuels en visible et à peu près 50 millisecondes d'angle en infrarouge à 2 microns. Donc vous voyez, ça reste tout juste suffisant pour résoudre l'environnement des étoiles, mais la surface reste encore difficile d'accès. Alors si on veut aller vers la surface des étoiles, on va vers l'interférométrie. Pourquoi on a un gain si important avec l'interférométrie? C'est parce qu'on utilise plusieurs télescopes séparés. Et donc, en connectant ces télescopes, on synthétise l'équivalent d'un télescope qui peut faire des centaines de mètres de diamètre sans avoir à construire un immense miroir de 100 mètres qui est infaisable techniquement actuellement. Et cette technique donc, de connexion de télescopes, eh bien, elle est extrêmement puissante puisqu'elle permet d'atteindre des résolutions de millisecondes d'angle. Alors, le plus bel interféromètre actuel, mais bon, c'est peut-être un peu partial, c'est le VLTI, l'interféromètre du VLT de l'Observatoire européen austral, qui est au Mont Paranal, dans le nord du Chili. Donc voici une photo prise par drone, une très belle photo couchée du soleil. Le principe de l'interféromètre du VLT, c'est de connecter d'amener la lumière collectée par les quatre grands télescopes, ou les quatre plus petits qu'on voit en avant-plan, et l'amener à un même point, donc qui est situé dans le laboratoire central qu'on voit là où est le point bleu, pour ajouter la lumière collectée par chacun des télescopes sur le même objet céleste. Et cette opération d'addition de la lumière, elle est réalisée dans des instruments. Alors il y a actuellement trois instruments en opération, donc ce sont des systèmes optiques complexes, hein, mais qui maintenant sont très efficaces et qui réalisent cette addition de la lumière provenant des quatre télescopes pour réaliser la recombinaison de la lumière et la synthèse d'un télescope de 130 mètres de diamètre, en l'occurrence pour le VLTI. Alors comment ça fonctionne très brièvement l'interférométrie ? Eh bien les télescopes collectent des ondes lumineuses en provenance du même objet. Donc j'ai représenté ici des ondes lumineuses, hein, sinusoïdales bien sûr. Donc le principe c'est que les télescopes collectent ces ondes lumineuses et prélèvent une partie de l'onde lumineuse qui arrive en permanence sur les télescopes au niveau de chaque miroir de télescope individuel. Donc on s'arrange pour cette opération-là pour égaliser très précisément la longueur parcourue par la lumière entre l'objet observé, donc l'étoile, et le point de recombinaison. Donc on place les ondes sinusoïdales exactement en phase, et donc on additionne ces deux ondes sinusoïdales, ça fait une onde sinusoïdale plus grande, voilà, et c'est le principe, donc on réalise des franges d'interférence en additionnant la lumière collectée par deux ou plus, jusqu'à quatre pour le VLTI télescope. Voilà. Donc les franges d'interférence qu'on obtient, c'est l'équivalent de la tâche image d'un télescope simple. Vous savez, la figure d'Airy, c'est-à-dire la figure formée par un télescope dans son plan image d'un objet ponctuel, eh bien pour un interféromètre, ce n'est pas une tâche d'Airy, ce sont des franges d'interférence de forme un peu sinusoïdale. Alors ces franges, elles nous renseignent sur pas mal de choses, et notamment sur la taille de l'objet observé. Alors cette taille, elle est proportionnelle à la visibilité des franges. Donc j'ai représenté ici sur l'image des franges de laboratoire, mais qui représentent bien ce qu'on observe avec des télescopes. Et par-dessus, j'ai représenté l'étoile qu'on observe, avec le disque jaune au centre. Eh bien, lorsque le disque jaune est plus petit qu'une frange d'interférence, eh bien, en fait, les franges observées vont être très contrastées. Elles vont aller au maximum et passer à zéro, de manière très, très contrastée. Par contre, lorsque l'on observe une étoile qui est plus grande qu'une frange d'interférence, eh bien, la partie de l'étoile qui est située dans la partie sombre des franges, eh bien, elle va diminuer le contraste, elle va remplir les franges un petit peu de lumière et diminuer leur contraste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la visibilité, le contraste des franges, eh bien, il permet d'avoir la taille de l'étoile. Plus la visibilité est faible, plus la taille de l'étoile angulaire est importante. Et puis une autre quantité qui est intéressante à mesurer, eh bien c'est la phase, c'est-à-dire la position des franges. Et cette position des franges nous renseigne sur le degré de symétrie ou d'asymétrie de l'objet observé. Par exemple, si on observe une étoile binaire, eh bien on observe que les franges se déplacent du fait de la contribution de l'étoile secondaire. Et donc la mesure de la phase nous permet de reconstituer, par exemple, des images ou de mesurer l'écartement d'étoiles binaires très serrées. Voilà. Donc ces deux quantités, visibilité et phase, nous renseignent sur la taille des objets et sur leur forme, sur leur distribution de lumière. Alors, maintenant, venons-en à la première application astrophysique de l'interférométrie, même historiquement, puisque les premières observations en interférométrie optique, couronnées de succès, ont été faites par Michelson il y a un peu plus d'un siècle, en mesurant la taille de l'étoile Bételgeuse, la taille apparente angulaire de l'étoile Bételgeuse. Donc j'ai représenté sur l'image qui est ici quelques étoiles proches du Soleil à leur taille réelle, enfin comparativement à celle du Soleil. Vous voyez, il y a des étoiles un peu plus grandes comme Sirius, Sirius A ou Alpha du Centaure A, et puis il y a des étoiles plus petites comme Alpha Centauri B, l'étoile de Kapteyn ou Proxima, Proxima dont la taille n'est pas très différente de celle de la planète Jupiter. Voilà. Donc l'idée de l'interférométrie de base, on va dire la première idée, c'est de mesurer la taille angulaire des étoiles pour en déterminer la taille réelle, linéaire ensuite. Alors on va regarder maintenant comme on a fait sur l'étoile Alpha du Centaure, c'est notre plus proche voisine. Elle est située à 4,3 années-lumière, hein, donc 40 000 milliards de kilomètres quand même, c'est pas tout près. Elle est constituée de deux étoiles de type solaire, donc les A et B, une un peu plus grande et une un peu plus petite que le Soleil, et l'étoile Proxima, qui est une naine rouge, qui est effectivement l'étoile la plus proche, puisqu'elle est un petit peu en avant-plan des deux principales. Proxima est particulièrement intéressante parce qu'elle héberge au moins deux planètes, probablement trois. Et Alpha du Centaure, malgré A et B, hein, malgré beaucoup d'efforts, pour l'instant, on ne connaît pas encore de planète, mais ça va peut-être changer. Alors, comment on mesure la taille angulaire d'une étoile comme Alpha Centauri A? Sur le diagramme représenté ici, j'ai tracé la visibilité des franges en ordonnée, donc rappelez-vous, le contraste des franges, ce qui est proportionnel à la taille de l'étoile, en fonction, sur l'axe X, de la séparation entre les télescopes. Voilà. Donc de la fréquence spatiale, mais c'est-à-dire de la longueur de base entre les télescopes. Donc plus on va vers la droite du diagramme, plus les télescopes sont écartés et plus la résolution angulaire de l'instrument est élevée. Donc ce qu'on voit, c'est la première partie de la courbe, ici à gauche de l'écran, qui décroît, hein, donc c'est bien ce qu'on a vu sur la petite animation. L'étoile est plus grande qu'une frange, hein, quand on augmente la séparation entre les télescopes. Donc on obtient de cette façon-là la taille angulaire de Alpha du Centaure A, qui est de 8,5 millisecondes d'angle. Alors on l'a mesuré précisément, avec une précision d'à peu près 0,4%. Et comme on connaît très bien la distance d'Alpha du Centaure, eh bien, on a pu déterminer la taille linéaire d'Alpha Centauri A et son rayon, donc comme c'est écrit au centre, il fait 1,22 fois le rayon du Soleil avec une erreur assez petite de 0,4%. De même pour Alpha Centauri B. Alors Alpha Centauri B, un peu plus petite que le Soleil, vous voyez sa fonction de visibilité, elle reste un petit peu plus haute que la fonction de visibilité de Alpha Centauri A, simplement du fait de sa plus petite taille angulaire, qui est ici de 6 millisecondes d'angle seulement, là encore mesurée avec une très bonne précision. On peut même mesurer, alors ça c'est un petit peu plus délicat à expliquer, mais on peut même mesurer la répartition de lumière à la surface de l'étoile, c'est-à-dire l'assombrissement centre-bord, ce qu'on a fait pour Alpha Centauri A et B, et on a pu montrer que l'assombrissement centre-bord d'Alpha Centauri B, il est très proche de celui du Soleil, alors que celui d'Alpha Centauri A, même si elle a un type spectral proche du Soleil, eh bien, il est légèrement différent de celui du Soleil. Voilà. Alors, un petit portrait de famille. C'est une image d'artiste. Hein, Alpha du Centaure A et B, comparé à la taille du Soleil, à l'échelle. Donc, vous voyez, une étoile un petit peu plus grande, un petit peu plus petite que le Soleil. Et la troisième étoile, Proxima, qui, elle, est beaucoup plus petite. Alors, c'est très intéressant du point de vue de la physique stellaire d'avoir deux objets comme ça, Alpha Centauri A et B, qui encadrent les propriétés du Soleil, en étant un peu plus massive, un peu moins massive, un peu plus grosse, un peu plus petite. C'est vraiment un laboratoire extrêmement intéressant pour la physique stellaire des étoiles comme le Soleil. Alors, une petite remarque sur la densité. Il y a quelque chose qui est particulier à l'étoile Proxima, c'est que comme c'est une toute petite étoile, eh bien, sa densité, elle est extraordinaire. Le Soleil a une densité d'à peu près 1,5 tonnes par mètre cube, donc c'est plus que l'eau, 1,5 fois l'eau. Mais par contre, Proxima a une densité de 47 tonnes par mètre cube. Et ça, on le sait parce qu'on a mesuré sa taille, on estime sa masse et donc on détermine sa densité. C'est 4 fois plus que le plomb. Donc c'est une étoile qui est extrêmement dense comparée à une étoile de type solaire. Alors, ce que nous donnent les mesures de diamètre stellaire par interférométrie, eh bien, c'est un échantillonnage de la diversité des étoiles. Parce que les étoiles ne sont pas toutes comme Alpha Centauri, il y en a des beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Et donc, on peut évaluer la composition, enfin, on peut évaluer les propriétés physiques d'un grand nombre d'étoiles, d'une grande variété d'étoiles, comme on voit sur ce diagramme HR, Hertzsprung-Russell, des étoiles qui ont été observées et mesurées par interférométrie. Et donc, on peut étudier ensuite comment les étoiles naines, qu'on voit ici sur la séquence principale, évoluent vers le stade de géante et de supergéante. Voilà. Donc, pour aller assez vite sur l'exploitation de ces mesures, lorsqu'on a mesuré la taille d'une étoile, eh bien, c'est un formidable instrument pour déterminer l'âge d'une étoile. C'est quelque chose qui est intimement lié à l'âge. Et comme on a vu au tout début, une étoile va évoluer d'abord sur la séquence principale comme étoile naine, et puis ensuite, quand elle va sortir de la séquence principale, eh bien, elle va grossir. C'est le symptôme de son vieillissement principal, c'est le fait qu'elle grandit. Donc mesurer sa taille, eh bien, c'est un moyen très précieux de savoir où se trouve l'étoile. Alors sur le diagramme Hertzsprung-Russell qu'on voit ici à gauche, vous voyez, il y a la séquence principale, c'est la diagonale en fait, du diagramme, qui montre la luminosité en ordonnée et la température en abscisse des étoiles en général. Les étoiles naines sont sur cette diagonale, et puis quand elles vieillissent, elles partent du côté droit du diagramme. Et donc, elles vont se déplacer vers la droite du diagramme, et ce faisant, eh bien, elles vont changer de taille. Parce que vous voyez, les diagonales qu'on voit sur le diagramme, eh bien, elles sont des courbes isorayons. Donc, l'étoile va très rapidement changer de taille lorsqu'elle évolue. Et grâce à une mesure de taille de l'étoile, dans une mesure de rayon par interférométrie, par exemple de l'étoile Sirius, dans ce cas-là, eh bien, on peut savoir très exactement où se trouve l'étoile sur la trajectoire évolutive qui est représentée sur le diagramme ici avec les courbes rouges et bleues. Et donc, de cette manière-là, on peut déterminer, par exemple, que Sirius, hein, le système Sirius A et B, a un âge d'à peu près 250 millions d'années à 12 millions d'années près, ce qui est évidemment beaucoup plus jeune que le Soleil. Mais ça, on peut le faire principalement. La contrainte principale est apportée par la mesure de diamètre de l'étoile. Voilà. Alors, maintenant, que peut-on faire de plus que mesurer la taille d'étoiles bien tranquilles, comme Alpha du Centaure, par exemple? Eh bien, on peut mesurer la taille d'étoiles qui changent de taille, et notamment des céphéides. Alors, l'image qui est ici en fond, c'est ma céphéide préférée, une magnifique étoile de l'hémisphère sud qui s'appelle RS Puppis. Donc, c'est ce qui fait toute l'importance et toute la célébrité de ces étoiles céphéides, c'est que ce sont des étalons de distance. Ce sont des objets qu'on peut utiliser pour mesurer des distances pour une raison assez remarquable, découverte par l'astronome Henrietta Swan-Leavitt en 1908. Et la raison est que leur période de pulsation est liée à leur luminosité intrinsèque. Donc ça en fait des objets remarquables parce qu'il suffit de mesurer la période d'oscillation de l'étoile. Et on connaît, par cette loi période-luminosité, la loi de Leavitt, on connaît la luminosité intrinsèque de l'étoile. On compare cette luminosité intrinsèque à la luminosité apparente, et on a la distance, directement. Donc ce sont vraiment des étoiles très importantes. C'est grâce à elles qu'on sait que l'univers est en expansion. C'est grâce à elles que toute la cosmologie moderne est née. Donc c'est vraiment des étoiles importantes. Alors, ces étoiles, elles ont une propriété, ce sont des supergéantes, donc elles sont très grandes, comme leur nom l'indique. Et une petite céphéide, eh bien, elle fait une cinquantaine de fois la taille du Soleil. Ça, c'est une petite, hein, faible masse. Et une grosse céphéide, elle peut faire jusqu'à 300 fois la taille du Soleil. Donc, ce sont des grandes étoiles. Et leur propriété, évidemment, importante, c'est qu'elles pulsent, elles changent de taille, elles changent de luminosité. Donc, ça, c'est une petite animation, hein, qui montre le mécanisme, l'amplitude réelle de la pulsation d'une céphéide. Les céphéides, elles ont des périodes de pulsation qui vont de quelques jours à quelques semaines, quelques mois, maximum de l'ordre d'une centaine de jours. Donc ce sont des étoiles qui pulsent en permanence et qui changent de luminosité et qui changent de diamètre. Donc le fait qu'elles changent de diamètre, ça veut dire qu'on peut observer cette variation par interférométrie. Et ça apporte plein d'informations très importantes sur la manière dont elles pulsent. Et j'ai représenté ici une petite série de mesures de céphéides par interférométrie au cours du temps qui montrent comment le domaine a évolué, le domaine de l'étude des céphéides a évolué avec le progrès technique de l'interférométrie optique depuis le sol. Donc les premières observations d'une céphéide par interférométrie ont été faites par l'équipe de Denis Mourard en France, au GI2T, qui est situé sur le plateau de Calerne. Donc, les premières observations, vous voyez, montrent la variation de visibilité au cours du cycle de pulsation de la céphéide. C'est une céphéide qui a une période de, je crois, de 7 jours, 6 jours, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, on attend à ce que la taille de l'étoile change, donc sa visibilité change. Malheureusement, la précision des mesures à ce moment-là n'était pas suffisante et vous voyez que les barres d'erreur sont encore trop grandes pour détecter réellement cette variation. En 2002, donc quelques années après, un interféromètre américain appelé NPOI a presque détecté la pulsation de la céphéide Eta Aquilae. Donc on voit qu'on commence à deviner une variation. Les barres d'erreur restent quand même importantes. On ne peut pas conclure réellement qu'il y a une détection forte. La première détection a eu lieu avec l'instrument PTI. En fait, c'est marqué 2001, mais l'observation de NPOI était avant celle de PTI. Donc, PTI a vraiment montré pour la première fois la variation de taille angulaire d'une céphéide grâce à cet instrument qui est situé à côté du télescope de 5 mètres du Mont Paloma, qui forme une sorte de Y. Voilà, donc c'était un instrument qui avait une longueur de base d'une grosse centaine de mètres. Un interféromètre australien qui a résolu de manière très convaincante la pulsation de la céphéide Elkar. Nos petites observations personnelles de la céphéide Elkarinée encore, cette fois du VLTI, alors il y a une vingtaine d'années, hein, j'étais tout jeune à gauche de l'image. Et donc des observations en 2004 avec l'interféromètre Charade de Delta Cephei qui montre vraiment avec une précision extraordinaire la variation de taille de cette étoile qui est le prototype des céphéides. Et c'est intéressant de comparer cette courbe-là avec celle du GI2T hein, qui a été obtenue seulement 7 ans auparavant et de voir le progrès qu'il y a eu sur ces 7 années extraordinaires en termes de qualité de mesure. Les meilleures mesures actuelles de céphéides, elles ont été obtenues par l'interféromètre Chara encore, et par exemple sur la céphéide Eta Aquilae, la même que celle de NPOI hein, de 2002. Vous voyez là, le gain en précision qui est fabuleux, de la courbe de diamètre angulaire. Alors ici, oui, j'ai oublié de mentionner, c'est la courbe de diamètre angulaire en fonction de la phase, donc au cours du cycle de variation de l'étoile. Et vous voyez que la taille angulaire de l'étoile, c'est 1,7 millisecondes d'angle à peu près. Donc 1,7, c'est petit, c'est l'ordre de 3 mètres sur la Lune. Et on mesure cette variation de diamètre avec une précision qui est de l'ordre de quelques centimètres à la distance de la Lune. Alors l'instrument Chara, donc il est sur la photo ici. Alors il est un peu caché, on voit très bien le télescope de 100 pouces, hein, de 2,50 mètres, le télescope de Edwin Hubble, hein, un télescope extrêmement important historiquement. Et l'interféromètre, eh bien, il est perdu dans la forêt. Il est constitué de 6 télescopes et d'un grand bâtiment de recombinaison au centre. Les 6 télescopes en fait, permettent d'atteindre des bases, des longueurs de base, des séparations très très grandes jusqu'à 330 mètres. Et c'est cette longueur de base de 330 mètres, donc la synthèse d'un télescope de 330 mètres qui permet de résoudre la variation d'une céphéide avec une telle précision. Donc c'est un instrument qui est fantastique pour l'observation à très haute précision d'étoiles, notamment de céphéides. Alors, un autre thème historiquement important en interférométrie et qui a donné des résultats tout à fait spectaculaires, c'est l'étude des étoiles en rotation rapide. Alors, une étoile, comme on l'a vu au début, c'est une boule de gaz, donc c'est un fluide. Une étoile, ce n'est pas dur, hein, ce n'est pas solide. Donc, c'est sujet à déformation. Et dans le cas de la rotation solaire, eh bien, il n'y a pas beaucoup de déformation de l'étoile elle-même. Il y a simplement une rotation différentielle en fonction de la latitude. Hein, le Soleil tourne un peu plus vite à l'équateur qu'au pôle. Mais globalement, le Soleil, il lui faut un mois à peu près pour faire un tour sur lui-même. Ça correspond à une vitesse à l'équateur de 2 km par seconde. Donc 2 km par seconde, ça paraît un peu vite, mais ce n'est pas énorme, ce n'est pas très, très grand pour une étoile. Donc dans le cas d'une rotation lente, on a une étoile qui est sphérique, et le Soleil est extrêmement sphérique. Il est sphérique à un millionième près. Donc c'est un objet dont la rotation ne change pas la forme. Par contre, si on a une rotation rapide, là, c'est autre chose. Si l'étoile se met à tourner très vite, eh bien, elle va s'aplatir, elle va former un ellipsoïde de révolution, pas un ballon de rugby, hein, plutôt un Smarties, voyez, plutôt la version aplatie de l'ellipsoïde, simplement parce qu'elle est fluide, hein, et donc ça conduit à cette déformation-là. Alors, on peut estimer assez simplement l'aplatissement qui correspond à une certaine vitesse de rotation. Bon, c'est une petite approximation ici, en fait, qui permet de voir que le taux d'aplatissement d'une étoile, il va être proportionnel à sa vitesse angulaire de rotation, donc en gros sa vitesse de rotation sur elle-même, au carré, donc c'est très sensible à la vitesse angulaire de rotation, et à l'inverse de sa densité. Moins une étoile est dense, plus elle va être aplatie. Et plus elle tourne vite, plus elle va être aplatie. Donc une étoile peu dense qui tourne vite, elle va être très très aplatie. Voilà. Et donc ça, on a pu l'observer dans pas mal d'étoiles, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'étoiles qui sont aplaties comme ça. Alors oui, le Soleil, c'est seulement un millionième, hein, ça, c'est pas grand-chose, mais on l'a aussi observé dans le système solaire, et Saturne est un exemple. Saturne est une planète qui tourne vite sur elle-même. Et elle est aplatie de manière tout à fait significative. J'ai représenté ici deux cercles tangents à l'équateur et au pôle, et on voit très bien l'aplatissement. Ça, on était dans le plan des anneaux au moment de cette photo. Voilà. Mais ce même raisonnement s'applique aux étoiles, et on observe des étoiles extrêmement aplaties par interférométrie. Alors, par exemple, l'étoile Altaïr, Alpha de Lyell, c'est une des étoiles du triangle d'été, hein, qu'on observe avec plaisir pendant les vacances d'été. C'est une étoile qui a une forme très aplatie, comme un Smarties, et on l'observe avec l'interférométrie. Alors on l'observe de différentes manières. On l'observe déjà en visibilité, donc vous voyez la colonne centrale ici montre la courbe de visibilité dans une raie spectrale de l'étoile. Donc on voit que là où il y a la raie spectrale, donc au milieu du diagramme, en fait, il y a une visibilité un petit peu plus faible, donc c'est simplement parce que l'étoile paraît un petit peu plus grande exactement dans la raie spectrale, il y a des protubérances un peu autour, disons. Et puis, il y a une autre chose qui apparaît, c'est que on observe de la phase, on observe des variations de phase. Et vous vous rappelez, la phase, c'est ce qui détermine le degré d'asymétrie de l'objet. Et on observe un signal de phase. Sur la colonne de droite, on voit la phase en fonction de la longueur d'onde. Donc, au niveau d'une raie spectrale, qu'on appelle la raie bracket gamma, donc une raie de l'hydrogène, hein, on voit qu'il y a une sorte de S qui se dessine. Et ce S, en fait, il provient du fait que sur la surface de l'étoile, en rotation rapide, eh bien, en fait, lorsqu'on observe une bande spectrale très étroite dans le spectre de l'étoile, on va avoir une image du spectre qui se projette à la surface de l'étoile. Et ça, c'est ce qui est représenté dans la vignette en bas à droite. En fait, on observe la projection de la raie bracket gamma sur l'étoile elle-même du fait de sa rotation. Parce que la partie gauche de l'étoile se rapproche de nous, la partie droite s'éloigne de nous, et donc la raie apparaît au centre quand on est pile à la longueur d'onde de cette raie. Tout ça pour dire qu'on arrive, grâce à ce type d'observation, à caractériser la répartition de lumière à la surface d'une étoile comme Altaïr en rotation rapide, et à montrer, par exemple, que l'équateur de l'étoile est sombre. C'est quelque chose qui est un peu paradoxal. L'équateur d'une étoile en rotation rapide, il est plus faible, plus sombre que ses pôles, simplement parce qu'il est plus éloigné du centre de l'étoile. Vous voyez ? Donc c'est un Smarties avec les pôles plus brillants et l'équateur plus sombre. Voilà. Et donc on mesure également donc, le taux d'aplatissement qui nous renseigne sur la structure interne de l'étoile. Alors on ne l'a pas fait que pour Altaïr, il y a des observations interférométriques d'un nombre assez important de rotateurs rapides. Donc l'étoile Achernar, qu'on voit ici en haut à gauche, Achernar c'est un peu ma préférée parce que c'est la plus aplatie de toutes, c'est celle qui est la moins dense et qui tourne le plus vite, donc elle a le taux d'aplatissement le plus fort. Mais d'autres sont également très intéressantes, comme l'étoile Vega qu'on voit ici à gauche. Alors Vega, encore une étoile du triangle d'été, qu'on repère très facilement, elle a cette particularité qu'on la voit par l'axe polaire. En fait, on la voit par-dessous, ou par-dessus, ça dépend le point de vue. On la voit presque exactement par-dessous. Donc on a l'impression qu'elle est ronde. Quand on mesure sa taille, en fonction de l'azimut, eh bien, on la trouve à peu près ronde. Mais par contre, on trouve un assombrissement centre-bord qui est très anormal et qui est tout à fait caractéristique d'une étoile en rotation rapide. Donc on sait qu'en réalité, si on pouvait redresser l'étoile Vega, on verrait qu'elle est aplatie comme Altaïr à peu près. Et d'autres exemples sont représentés ici. Il y a toute une variété d'étoiles plus ou moins grosses qui tournent toutes avec des vitesses de l'ordre de 200 à 300 km par seconde à l'équateur, voire plus. Donc vous voyez, par rapport aux 2 km par seconde du Soleil, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et alors, pourquoi l'image des Pléiades? Parce qu'en fait, sur cette image des Pléiades, eh bien, toutes les étoiles que vous voyez sont aplaties comme Altaïr ou Achernar. C'est quelque chose qu'on ne se représente pas très bien parce que le Soleil est rond, sphérique, très sphérique, mais la plupart des étoiles massives, donc des étoiles bleues hein, comme on a ici, dans la galaxie, sont des rotateurs rapides et donc sont déformés comme Altaïr ou Achernar ou Régulus, ou voilà, toutes sortes d'étoiles dont on connaît bien les noms. Voilà, donc les Pléiades, vous vous rappellerez que ce sont un peu des ellipsoïdes, hein, toutes les étoiles de ce bel amas. Alors, on va en venir maintenant à une très célèbre étoile évoluée, Bételgeuse. Alors ici, c'est une vue d'artiste hein, de l'étoile Bételgeuse qui montre tout l'aspect torturé de la surface de l'étoile qui est dû à la convection très, très forte et très violente qui se produit à la surface. Bételgeuse, c'est une étoile qui fait à peu près un millier de fois la taille du Soleil, donc une immense étoile. Si on la mettait dans le système solaire, elle remplirait le système solaire jusqu'à Jupiter, donc ça serait quand même un peu gênant pour la Terre. Elle est extraordinairement lumineuse, hein, plusieurs centaines de milliers de luminosités solaires. Et alors, c'est une des plus grandes étoiles angulairement du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment un grand avantage pour imager sa surface et son environnement proche. Donc, on l'a fait avec des collègues, hein, notamment Miguel Montargès qui est ici. On a observé cette étoile avec le VLT, le grand télescope du Chili qui fait aussi interféromètre, mais on l'a observé d'abord avec des télescopes unitaires. Et on a pu observer notamment la perte de matière de cette étoile. Et vous voyez sur l'image ici, toute la poussière qu'a formée cette étoile par perte de masse. Toute cette nébuleuse, en fait, c'est la matière perdue par Bételgeuse. Et au centre, vous voyez un tout petit point, on va se rapprocher progressivement. Ce petit point, eh bien, c'est l'étoile elle-même, c'est Bételgeuse. Et Bételgeuse, grâce au télescope du VLT et grâce à l'optique adaptative sphère, qui est un système qui fonctionne aux longueurs d'onde visibles, eh bien, on peut obtenir une image résolue de la surface de Bételgeuse. Et ça, c'est une image donc, qui a été obtenue avec le VLT et le système d'optique adaptative sphère, où on voit la surface irrégulière de Bételgeuse, ce qui fait à peu près 45 millisecondes d'angle de diamètre angulaire. Alors, cette forme-là, elle est très particulière et elle est due au fait que cette observation, elle a eu lieu pendant le grand affaiblissement de Bételgeuse. Cet événement tout à fait extraordinaire qui a eu lieu début 2020, enfin fin 2019, début 2020. Il y avait d'autres événements aussi à l'époque qui étaient moins rigolos. Cette baisse de lumière tout à fait exceptionnelle de Bételgeuse, eh bien, on a pu l'observer avec le VLT et regarder la surface de l'étoile, regarder ce qui se passait à la surface de l'étoile et regarder ce qui se passe avant le grand affaiblissement et après le grand affaiblissement. Donc il y a vraiment eu un changement très important de la structure de la surface de l'étoile pendant cet événement d'affaiblissement qui est assez inédit, hein, ça n'avait pas été observé précédemment. Et on peut voir sur cette séquence temporelle d'images que la forme de la photosphère de cette étoile, qui pourtant est fantastiquement grande, hein, 5 unités astronomiques de rayon, donc vraiment immense, eh bien, elle a changé de forme de manière considérable sur une période de temps relativement courte. Voilà. Donc ça, c'est un résultat qu'on doit à l'optique adaptative du VLT qui fonctionne en visible, donc une résolution angulaire d'une quinzaine de millisecondes d'angle qui permet d'avoir 3 éléments de résolution dans chaque direction sur le disque de l'étoile. Alors le scénario de cet affaiblissement est sensiblement celui-là, le scénario qui recueille le meilleur consensus actuellement. L'étoile a perdu de la matière, cette matière s'est condensée sous forme de poussière et a masqué une partie du disque de l'étoile, et la partie manquante au sud de l'étoile, en bas de l'étoile, eh bien, c'est dû à un nuage de poussière qui cachait sa surface. Alors Bételgeuse, ce n'est pas la seule étoile dont on peut faire de l'imagerie, mais par contre pour les autres étoiles, eh bien, il faut passer par l'interférométrie parce qu'on ne peut pas résoudre leur disque qui est trop petit pour des télescopes de 8 mètres. Donc ça a été fait grâce aux instruments notamment du VLT, donc qui s'appelle VLTI Pionier, le VLTI, ou alors Amber pour l'image en bas. Donc vous voyez, on observe et on cartographie la surface d'étoiles évoluées et on voit l'irrégularité de leur surface qui est causée par la convection qui se produit à leur surface, des grands mouvements de matière qui brassent le gaz de l'étoile et qui conduisent à des irrégularités de lumière. Donc des images tout à fait importantes qui montrent voilà, ce ne sont pas des points, on résout ces étoiles-là et on commence à bien caractériser leur surface, même de manière, spectroscopique, c'est-à-dire qu'on peut caractériser la spectroscopie d'un point particulier d'une étoile, comme ça a été fait avec l'instrument Amber, ici, en bas à droite. Voilà. L'objectif de ces travaux, c'est essentiellement de contraindre les propriétés de la convection, donc qui est un mode de transport de l'énergie extrêmement important, mais qui n'est pas encore bien maîtrisé physiquement, dans des conditions extrêmes, et la perte de masse de ces étoiles qui enrichit le milieu interstellaire. Voilà, je vais venir maintenant au dernier thème astrophysique, l'étude du micro-quasar SS-433. Alors, SS-433, c'est ce qu'on appelle une binaire X de forte masse, en anglais une HMXB, hein, une binaire X en forte masse. Et le scénario est le suivant. On a une étoile supergéante bleue, donc représentée sur cette vue d'artiste à droite, qui est à proximité d'un trou noir stellaire. Donc ce trou noir est le résultat de l'évolution d'une autre étoile, qui était le compagnon de l'étoile bleue précédemment, qui a explosé en supernova, qui était très massive, et cette explosion a formé un trou noir de masse stellaire. Et ce trou noir, maintenant, il accrète, c'est-à-dire qu'il absorbe de la matière perdue par la supergéante bleue. Donc c'est un objet extrêmement intéressant, hein, évidemment, parce qu'il y a un trou noir, un objet physique tout à fait spécial, hein, et extrêmement intéressant. Ce trou noir, eh bien, quand il accrète de la matière, il la chauffe extrêmement fortement, et ça émet des rayons X, d'où le nom du système, hein, de binaire à rayons X. Et on a donc cherché à observer cet objet avec l'instrument Gravity du VLTI. Et alors, on a été aidé quand même, pour la préparation de ces observations, par le fait que les jets qui sont émis par le trou noir lorsqu'il accrète de la matière, eh bien, ils ont été très bien observés en radio avec le Very Large Array, donc le très grand système de radiotélescope qui est situé à Socorro, au Nouveau-Mexique, a réalisé des observations de ce système, de SS-433, et a montré de manière remarquable l'expulsion de matière par les pôles de l'accrétion du trou noir. Donc ces jets sont symétriques, hein, ils partent de chaque côté du trou noir et ils partent de manière relativement régulière quand il y a de l'accrétion. Alors, sur le petit film qu'on voit, il y a un autre effet qui est intéressant, c'est que l'axe d'émission change avec le temps. Et ça, c'est dû à la précession de l'axe du disque d'accrétion du trou noir. Voilà, donc on voit la direction d'éjection change un petit peu avec le temps. Alors, on a pu observer ce système avec l'instrument Gravity du VLTI, avec les quatre grands télescopes de 8 mètres. Et alors, on a obtenu ces observations qui montrent en haut, dans la vignette du haut, le spectre en intensité de l'objet, où on voit des raies spectrales en émission, donc il s'agit du domaine infrarouge, hein, autour de 2 à 2,3 microns. Donc on voit des raies en émission, et en fait, ces raies en émission correspondent aux jets qui sont expulsés par le trou noir. Donc, simplement, ils sont expulsés à des vitesses tellement importantes que le décalage Doppler est considérable et on observe plusieurs fois l'émission d'une même raie spectrale, simplement du fait du décalage Doppler des globules de matière qui s'éloignent ou qui se rapprochent de nous. On observe aussi une diminution de la visibilité là où on a les jets. Là où on a les raies d'émission, donc on résout les jets émis par le trou noir à l'échelle de quelques millisecondes d'angle, et puis on a de la phase différentielle simplement parce qu'on mesure l'asymétrie du système par rapport à l'axe d'éjection de la matière, en fait l'asymétrie entre l'éjection d'un côté et de l'autre du trou noir. Alors, ça nous a permis de construire un modèle de ce qu'on observait, hein, qui ajuste assez bien les observations Gravity. Et donc, on a construit cette image-là, qui est un peu différente de l'image d'artiste qu'on a vu tout au début, parce qu'on a en fait observé un système où on a une source qui émet le continuum, c'est-à-dire en dehors des raies spectrales, qui est toute petite, qui fait 0,8 millisecondes d'angle. Et cette source-là, en fait, elle a une forme allongée, un peu comme un œuf, un peu ovoïde, comme un ballon de rugby. Et en fait, on ne voit pas le trou noir, on ne voit pas le lieu de départ des jets. On a une espèce de cocon, un peu flou, un peu opaque, qui cache le trou noir, et en fait, les jets sortent de ce cocon. Donc c'est quelque chose qui était un peu inattendu, hein, qui ne correspond pas tout à fait à l'image où on voit le trou noir avec un beau disque et puis l'émission de jet. Là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe où le trou noir apparaît dissimulé dans un cocon. Voilà. Et la largeur transversale des jets, donc la finesse est extrêmement grande parce qu'elle n'est pas résolue par l'instrument. Donc on peut imaginer des sortes de pinceaux extrêmement fins qui partent du trou noir. Voilà. Alors, comment ça se compare avec l'image qui est faite en radio, hein, par le VLA? Mais en fait, on observe quelque chose qui est tout à fait compatible parce qu'on observe la direction d'émission des jets qui précesse, hein, donc qui change avec le temps, et on voit que c'est cohérent avec ce qui est observé à grande échelle au niveau de l'historique en fait de l'éjection de matière du microquasar. Voilà. Donc depuis l'échelle de 1 milliseconde d'angle, vous voyez sur la petite vignette, jusqu'à une échelle de 1 seconde d'angle et plusieurs secondes d'angle, donc 1000 fois plus grande, on a une homogénéité de la structure, de la géométrie de l'objet. Alors maintenant, pour conclure, on va regarder un peu vers l'avenir. L'avenir proche, c'est l'ELT, l'Extremely Large Telescope de l'ESO, donc un télescope extraordinaire de 39 mètres de diamètre qui est en construction. Et c'est la réalité aujourd'hui. Donc ça, c'est une image qui a été prise il y a quelques jours avec la webcam de Cerro Amazonas, donc dans le nord du Chili où est construit le télescope. On voit que la base du bâtiment est déjà bien avancée. Et grâce à ce télescope, eh bien, en fait, on va avoir une résolution angulaire qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a évidemment avec un télescope de 8 mètres. On a 5 fois plus, une résolution 5 fois meilleure. Et surtout, on va pouvoir travailler aux longueurs d'onde visibles. Et quand on fait les simulations de ce qu'on observera, par exemple sur Bételgeuse, eh bien, on espère pouvoir observer ce type d'image, c'est-à-dire vraiment visualiser la surface de l'étoile. Hein. Sur la partie gauche, c'est une simulation numérique de la convection de Bételgeuse, réaliste. Hein. On pense que c'est vraiment l'aspect de Bételgeuse. Et l'image centrale, eh bien, c'est ce que donnera l'ELT quand il fonctionnera en infrarouge proche. Donc vraiment des possibilités fabuleuses d'observation des détails de la convection, de spectroscopie résolue sur le disque de l'étoile. Donc vraiment voilà, des perspectives tout à fait extraordinaires, sachant qu'on arrive déjà à faire des images un peu similaires sur d'autres objets par interférométrie, comme sur l'étoile Pi 1 Gruis avec l'instrument VLTI Pionier. Voilà. Alors pour en venir un peu à la conclusion et aux perspectives, donc, la surface et l'environnement proche des étoiles, eh bien, c'est vraiment le domaine clé pour comprendre l'interaction des étoiles avec leur milieu, avec le milieu interstellaire et plus largement avec la galaxie. Donc, c'est vraiment où se passent tous les flux d'énergie et les flux par rayonnement et les flux de matière, c'est-à-dire de perte de masse, qui sont à la base de l'évolution de l'univers dans son ensemble et aussi des galaxies. Donc, c'est vraiment cette interface qui est extrêmement intéressante à observer en haute résolution angulaire en utilisant des techniques d'optique adaptative ou d'interférométrie. De nombreuses questions restent ouvertes actuellement. La formation stellaire est encore assez mal comprise. C'est un phénomène qui est très complexe dans les détails, dans la réalité. L'image de contraction du nuage moléculaire et puis de formation de l'étoile, c'est un peu simplifié, en réalité c'est extrêmement complexe. Également les dernières étapes de l'évolution stellaire, comment une étoile finit son existence, ça aussi c'est encore très complexe et mal compris. Le transport convectif de l'énergie, le transport du moment cinétique dans les étoiles en rotation rapide, comment se passe le transport de la rotation du cœur de l'étoile vers l'extérieur, vers la surface de l'étoile, ça c'est des choses qui sont encore un sujet d'étude actif, le rôle des champs magnétiques, l'activité stellaire, les interactions avec les planètes, ce qui évidemment est très important dans la caractérisation de l'habitabilité des planètes. Et puis les premières étoiles, les étoiles qui ont été formées juste après le Big Bang, hein, les étoiles de population 3, ça c'est un sujet qu'on aimerait aborder par interférométrie en allant voir ces objets à des très grands redshifts, à des très grandes distances. L'ELT nous donnera une excellente sensibilité et aussi une excellente résolution angulaire, moins de 6 millisecondes d'angle en visible, donc on pourra résoudre les plus grandes étoiles angulairement de manière spectaculaire. Et puis on a aussi une synergie d'instruments qui est aujourd'hui tout à fait extraordinaire avec le VLT et le VLTI, hein, qui sont déjà depuis 20 ans en service, mais des instruments dans le domaine de radiomillimétrique, NOEMA, ALMA, l'ELT, on a toujours le HST, le télescope Hubble qui est en orbite, Gaïa, qui donne les distances de toutes ces étoiles avec une précision extraordinaire, le JWST et d'autres, plateaux, missions spatiales, plein de projets qui vont nous donner beaucoup d'angles d'attaque sur tous ces problèmes liés à la physique stellaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Voilà, merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Vraiment, c'est fou de voir la physique stellaire, on en fait depuis, je sais pas, un siècle, et puis il y a toujours des découvertes, il y a encore des découvertes fantastiques. On a l'habitude aussi de dire que le Soleil, bah, c'est une étoile comme toutes celles qu'on voit dans le ciel, et puis bon, quand on les voit plus en détail comme ça, on voit que c'est quand même assez différent du Soleil. Alors, y a-t-il, alors, de nouveau pour nos amis qui nous suivent sur Internet, je répète, j'avais oublié de le dire, mais on l'a dit dans les commentaires, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, et je vais donner la parole également dans la salle s'il y a des questions. Je vais commencer par une question justement qui est déjà sur le chat. À quoi sont dues les pulsations des céphéides? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors les céphéides, en fait, elles pulsent, c'est une rupture d'équilibre entre la pression et la gravitation. C'est-à-dire que ces étoiles-là, elles fonctionnent un petit peu comme si on les chauffait un peu trop, et puis elles gonflent sous l'effet de la chaleur, et puis arrivées à une certaine taille, eh bien, elles se refroidissent et elles se dégonflent. En fait, c'est un équilibre entre la pression et la gravité, mais qui est oscillant. Simplement, la gravité l'emporte quand elle se compresse, et puis la pression l'emporte quand elle gonfle. C'est un phénomène thermique qui est entretenu par un mécanisme physique qu'on appelle le kappa-mécanisme, qui est lié à l'opacité d'une couche d'hélium qui est située dans l'étoile et qui entretient la pulsation de cette étoile. Donc c'est comme une bulle que vous auriez compressée légèrement et lâchée, et elle se met à osciller comme ça. Simplement, l'entretien de cette pulsation est dû à un phénomène qui se produit à l'intérieur de l'étoile, une sorte de soupape qui régule l'évacuation de la chaleur produite par le cœur de l'étoile.
Voilà. Ces pulsations des céphéides, tu peux nous rappeler l'ordre de grandeur des périodes, combien de temps ça met à osciller comme cela?
Oui, alors les céphéides, c'est de 2-3 jours, les céphéides classiques, de l'ordre de 3 jours jusqu'à une centaine de jours. Les courtes périodes étant plus petites et plus denses, et les longues périodes étant beaucoup plus grandes et moins denses. Donc c'est des étoiles qu'on peut observer, hein, même avec des jumelles. Hein. Delta Cephei, c'est une étoile qui est visible à l'œil nu. On peut regarder cette variation si on observe la luminosité apparente de l'étoile au cours du temps.
D'accord, merci. Alors y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle? Est-ce que une main se lève?
Merci beaucoup pour la conférence. Je me demandais, alors je vais rester sur les céphéides. Ma question c'est, quelle était ma question? Elle va revenir, j'espère. Non, oui, je me demandais, avec les nouveaux instruments qui arrivent, est-ce que vu qu'on calibre après les céphéides, on calibre encore les distances dans l'univers à partir de la calibration des céphéides, je me demandais si avec les nouveaux télescopes qui arrivent, la calibration allait s'améliorer suffisamment et que, vu qu'on a des problèmes, au niveau des ordres de grandeur, de distances dans l'univers qui sont, enfin je crois que toutes les théories ne sont pas d'accord à ce niveau-là, est-ce que ça peut résoudre le problème ou est-ce que pas du tout, et est-ce que ça va aider en tout cas à comprendre toutes les grandes distances dans l'univers, au-delà de ce qui est visible, je veux dire, par un télescope?
Oui, alors effectivement, c'est une question intéressante. Les céphéides, effectivement, elles jouent un rôle très important dans l'échelle des distances extragalactiques et notamment dans l'étalonnage de la constante de Hubble. La constante de Hubble, c'est le taux d'accroissement, le taux d'inflation, je ne sais pas comment on peut dire, le taux d'expansion, voilà, de l'univers actuel équivaut de l'ordre de 73 km par seconde par mégaparsec de distance. Et pour cet étalonnage-là, on utilise des céphéides et des étoiles supernovées. Et on a besoin de s'appuyer sur les céphéides et d'être certain que l'étalonnage de la relation période-luminosité est suffisamment précis. Donc, pour l'instant, cette valeur qu'on détermine à partir des céphéides et des supernovées, elle est en désaccord avec la valeur qui est extrapolée du fond diffus cosmologique, donc des mesures du satellite Planck, en utilisant le modèle standard d'univers, qui s'appelle le modèle lambda-CDM, permet de calculer une valeur de H0, de la constante de Hubble, à partir du rayonnement cosmologique. Du fond cosmologique. Et ces deux valeurs sont en désaccord actuellement, de l'ordre de 5 sigma, donc assez significatif. Donc c'est vrai qu'on remet en question, on remet sur la table les mesures de distance par les céphéides et la qualité de l'étalonnage de la relation période-luminosité des céphéides. Pour ce faire, on utilise effectivement les observations interférométriques qui ont été faites de céphéides pour mieux comprendre leurs pulsations, mieux contraindre leurs propriétés, leurs propriétés physiques, la manière dont elles pulsent, de manière à les rendre encore plus fiables et encore plus précises en termes d'étalons de distance. Mais ce type de mesure interférométrique, malheureusement, on peut le faire que sur les étoiles proches de nous, des étoiles de la Voie lactée, de notre galaxie, parce que dès qu'on va un peu trop loin, en fait, leur taille angulaire devient trop petite pour qu'on les résolve. Voilà.
Merci. Alors, une autre question sur le chat, qui est un petit peu liée à celle d'avant, qui est un peu le même genre de question. Tu as parlé des pertes de matière sur Bételgeuse. Alors, est-ce qu'on sait à quoi elles sont dues? Alors, la personne qui pose la question propose même quelques hypothèses. Est-ce que c'est dû à la rotation de l'étoile, sa grande taille, ou les mouvements de convection de la matière à l'intérieur de l'étoile?
C'est une question qui est encore un sujet à débat. On n'a pas encore bien compris qu'est-ce qui cause les pertes de matière d'étoiles comme Bételgeuse. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la convection, il y a des mouvements convectifs qui sont puissants à la surface. C'est une étoile qui est très peu dense, c'est une étoile qui est un peu comme un nuage, elle n'est pas du tout comme Proxima, elle a une densité qui est extrêmement faible. Quand la matière se déplace sur des très grandes échelles, à une distance de quelques unités astronomiques du centre de l'étoile, et en fait, la gravité que subit cette matière, elle est très faible, et donc il lui est relativement facile de partir dans l'espace, d'être éjecté. Donc on pense que la perte de masse, elle est liée à la convection, d'une certaine manière. Mais la manière exacte dont ce lien est fait, ça reste à démontrer de manière certaine.
Voilà. D'accord, merci. Une autre question ou un commentaire dans la salle, oui?
Alors, moi, j'avais une question sur le fonctionnement de l'interféromètre, par exemple, qui est utilisé pour le VLT. Il faut que les... En gros, on a plusieurs télescopes qui reçoivent de la lumière et les deux ondes arrivent en phase. Mais comment on fait pour qu'elles soient forcément en phase? Parce que si on fixe la distance entre deux télescopes et qu'on change l'inclinaison, elles ne vont pas forcément être en phase, non?
Enfin... Absolument, c'est tout à fait vrai. Alors... Pour ça, on utilise un système optique qui est assez complexe, qu'on appelle des lignes à retard. Donc on utilise des miroirs mobiles qui sont situés dans les tunnels, qu'on voit. En fait, la partie au centre, là, l'espèce de diagonale qu'on voit au centre, elle contient en fait des chariots qui portent des miroirs, et ces chariots sont mobiles et permettent de compenser les variations de parcours de la lumière selon l'angle vers lequel on pointe sur le ciel. Mais effectivement, on a besoin de faire cette égalisation grâce à ces dispositifs qui sont complexes et délicats, en utilisant donc des chariots qui se déplacent et qu'on allonge quand on a besoin de compenser, de rajouter du temps de propagation à la lumière collectée par un des télescopes. Voilà. Mais c'est les lignes à retard, c'est ce qui rend un interféromètre difficile à construire. Parce qu'il faut des très grands instruments, des très grands équipements optiques. On parle de déplacements de plusieurs dizaines de mètres pour les chariots, avec une précision de quelques dizaines de nanomètres. Donc c'est un système optique qui est difficile à fabriquer, cher et complexe à utiliser. Donc c'est vrai que c'est la difficulté de l'interférométrie, c'est la compensation du parcours de la lumière entre les différents télescopes.
Merci. Une autre question sur le chat. Alors, les optiques adaptatives peuvent-elles être utilisées avec des lentilles gravitationnelles? Alors, peut-être qu'il y a un peu un jeu de mots, mais ceci, la question se pose quand même. Les lentilles gravitationnelles, on a besoin de hautes résolutions angulaires. En quoi les différentes techniques dont tu as parlé peuvent t'aider à étudier, à mieux comprendre les lentilles gravitationnelles?
Oui, alors on peut tout à fait utiliser un système d'optique adaptative pour corriger les images d'un amas de galaxies et observer des lentilles gravitationnelles comme le fait Hubble depuis l'espace, sans optique adaptative, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, ou le JWST. Mais on peut tout à fait faire ce type de correction sur n'importe quel objet du ciel, y compris les lentilles gravitationnelles. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est corriger la déformation imposée à la lumière par la lentille gravitationnelle. Ça, on ne le fait pas, c'est ce qui est intéressant à mesurer d'ailleurs. Mais la seule difficulté pour faire ce type d'observation, c'est d'avoir un objet de référence qui nous sert à mesurer la turbulence pour ensuite la corriger. Donc ça s'appelle une étoile de référence. Alors aujourd'hui, on a des moyens de se passer d'étoiles de référence en utilisant de puissants lasers, de puissants rayons laser émis par le télescope, qui forment une étoile artificielle dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère terrestre. Mais ça reste une complication. On a besoin d'une étoile en général pour faire ce type d'observation par optique adaptative.
D'accord. D'autres questions, commentaires dans la salle ? Moi, j'en ai une. Sinon, tu as montré les tailles de... Alpha Sen, où tu as montré des résultats auxquels tu avais contribué, là, où on mesurait sa taille, etc. Et c'est des résultats assez récents, 2017, je sais pas, c'était assez récent.
C'est ça, oui.
Et comment ça se compare avec ce qu'on savait avant? Comment c'était une révolution, juste une évolution par rapport aux tailles qu'on mesure avant et la précision qu'on avait sur ces tailles?
Alors, oui, la précision a été améliorée. Avant, on avait une précision de l'ordre. Enfin, avant. Dans les années 2004-2005, on avait à peu près 1,3%. Et ensuite, on a pu améliorer à moins de 1%, 0,4% à peu près. Mais on peut faire encore mieux. On peut aller encore plus loin. On peut aller probablement à 0,1%. Sachant que en dessous d'un millième, la définition de la taille d'une étoile devient un petit peu difficile. Parce qu'un millième, c'est à peu près l'épaisseur de la photosphère d'une étoile, comme le Soleil. Donc on arrive dans un domaine un petit peu flou, où en fait la structure de l'atmosphère commence à prendre une importance dans la définition même de la taille de l'étoile.
Voilà. Donc éventuellement, on pourrait étudier ces structures d'atmosphère.
Absolument.
Avec ce type de mesure.
Absolument. On peut un objectif tout à fait possible à atteindre, c'est de mesurer la structure détaillée d'atmosphère d'Alpha du Centaure, A et B, et de la comparer à celle du Soleil.
Merci. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question ou pas? On a fait le tour des questions, des commentaires. Non, je ne vois plus de main qui se lève et je ne vois plus de questions. Alors, il y a des commentaires, des gens qui nous disent, qui nous écoutent, qui nous suivent de loin, du Sénégal, par exemple, qui nous remercient pour les réponses, les conférences. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci donc à ceux qui nous ont suivis sur Internet, qui vont continuer à nous suivre parce que la conférence va rester disponible par la suite. Merci à vous qui êtes venus dans l'amphithéâtre. C'était la dernière conférence de cette saison. J'avais des collègues qui voulaient faire des annonces pour les prochains événements à l'IAP. Donc, est-ce qu'ils sont encore là? Un commentaire? Non? Oui?
Oui, bonsoir. Je voulais annoncer que le samedi 17 juin, donc dans 8 jours, à partir de 19h30, on fait la nuit de l'astronomie, la 5e nuit d'astronomie de l'IAP. Et cette année, le thème, c'est les modélisations, la simulation numérique sur les ordinateurs pour tenter de mieux comprendre l'univers. Donc, 6 conférences dans l'amphithéâtre, des animations dans l'IAP, un food truck, camion-restaurant dans la cour, et puis des interviews de jeunes doctorants, doctorantes, des animations proposées par des jeunes doctorantes aussi, doctorants, post-doctorants. Voilà. L'IAP vous accueille toute la nuit, enfin non, jusqu'à 1h30 du matin à peu près, le 17 juin, entrée libre, et tout le programme est sur notre site internet.
Voilà, merci bien. Donc à bientôt pour ça à l'IAP. Et puis donc pour nous, pour nos conférences, on se retrouve début septembre, le programme est sur internet. Voilà, merci, bonsoir et à bientôt.